Bonjour, vous écoutez la voix du HR Spirit, le podcast Made by First Group. Je suis Céline Cussac, votre hôte, et j'ai le plaisir de recevoir au micro de ce podcast des professionnels de la fonction RH qui osent bousculer les lignes. À chaque épisode, découvrez comment ces femmes et ces hommes bâtissent leur vision d'une entreprise plus humaine, incarnent avec authenticité une fonction RH transformatrice et tentent de réenchanter le monde de l'entreprise. Un rendez-vous conversationnel qui se veut optimiste et décomplexé avec des passionnés du développement humain et du futur du travail. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du HR Spirit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Rouillet, DRH, RSE et Culture chez Mirova. Ensemble, nous allons parler d'entreprise à mission, de raison d'être et d'engagement. Très bonne écoute. Bonjour Aude.
Bonjour Céline.
Aude, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de La Voix du HR Spirit. J'aimerais te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Alors, on s'est connus en 2017. Tu étais à l'époque mon project angel lorsque je suis arrivée chez Natixis dans le cadre d'un gros programme de transformation de la fonction RH. Et quand je reprends ton parcours, je constate que tu as occupé un grand nombre de postes RH, principalement dans le secteur de la finance, après quand même un démarrage dans le conseil. Tu as rejoint Mirova il y a 5 ans en tant que DRH et aujourd'hui, alors tu as un périmètre plus large, tu es directrice des ressources humaines, RSE et culture, avec une dimension de Chief Mission Officer, on y reviendra tout à l'heure. De manière plus personnelle, à la question « Qui est Aude Rouillet ?», je suis tentée de répondre « Une femme de contraste ». Douce et ferme à la fois, visionnaire et pragmatique, autant subtile que cash, surtout quand il le faut. Tu avances au gré des expériences avec ambition et humilité, telle une passionnée exigeante et réfléchie, tout en apportant un regard optimiste et amusé sur les défis que sont les tiens en tant que DRH. Défis, on va y revenir, tu vas nous en partager quelques-uns dans cet épisode. Alors merci Aude d'être à mes côtés ce matin. Et puis avant de découvrir tes enjeux et ton quotidien, j'ai une question pour toi, je ne te l'ai jamais posée. À quoi rêvais-tu quand tu étais petite ?
Merci beaucoup Céline, merci pour ce portrait flash très, très, très agréable. Alors moi quand j'étais petite, quand j'étais très petite, je rêvais d'être une fée, enfin une princesse peut-être, une princesse fée, une princesse avec une baguette magique. Et puis un petit peu plus tard, je me suis rêvée actrice aussi.
Ah génial.
Voilà.
Et alors, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand pour passer de fée, princesse à DRH ?
Bon, alors là, je suis pas forcément direct, hein, mais c'est un chemin avec un certain nombre d'étapes, j'imagine. Non, mais plus largement, à l'adolescence, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était les disciplines type la littérature, l'histoire, tout ce qui avait trait plutôt aux sciences humaines, puis aux sciences sociales. Enfin, je pense notamment à la sociologie, la psychologie, etc. Et puis, au cours de mes études, donc j'ai une formation généraliste, hein, j'ai fait Sciences Po à Grenoble, et j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui était DRH.
Qui était DRH à l'époque déjà.
Voilà, qui était déjà DRH à l'époque et qui m'a présenté son métier d'une façon extrêmement appréciable pour moi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mettait vraiment l'humain au centre de ses préoccupations. Donc c'était intéressant, c'était quelqu'un qui travaillait dans un plus large hein, qu'un poste de DRH, qui était plutôt secrétaire général, donc qui était un peu numéro 2 dans son organisation. Et je l'ai observé et je me suis rendu compte à quel point il savait être à la fois sur les enjeux stratégiques de l'entreprise, tout en justement travaillant sur la matière humaine, en ayant vraiment le souci de la façon dont les salariés qu'il avait en charge pouvaient contribuer à la valeur de cette entreprise. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un champ très intéressant, c'est-à-dire que pour moi à l'époque le monde de l'entreprise c'était un monde qui m'attirait, c'était un objet effectivement qui voilà, mais je ne voyais pas quelle fonction je pouvais occuper en fait au sein d'une entreprise. Des fonctions type marketing, etc. ne m'intéressaient absolument pas. À son contact, ça m'a ouvert vraiment une voie en me disant finalement dans le métier de DRH je vais pouvoir associer tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire
une discipline
qui m'intéressait beaucoup dans le monde de l'entreprise. Voilà.
Donc une rencontre plutôt décisive en termes de vocation. Ça me fait penser à la question des rôles modèles. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes comme ça qui ont marqué ton parcours et que tu pourrais qualifier de rôle modèle ou en tout cas de personnes inspirantes?
Oui, alors certainement beaucoup de gens. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes inspirantes tout au long de mon parcours qui commence à être assez long. Mais ouais, je pense notamment à un professeur que j'ai eu lorsque j'étais à Sciences Po à Paris, puisque j'ai aussi fait une formation. J'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un DESS à Sciences Po Paris. Et j'ai eu un professeur qui s'appelait Renaud Saint-Saulieu, qui était un professeur d'université, un psychosociologue en fait, et qui avait travaillé beaucoup avec Michel Crozier sur tous les enjeux de sociologie des organisations, etc. Il était aussi très inspiré par la systémie. Hein. Et effectivement, à ses côtés, j'ai beaucoup appris sur le monde de l'entreprise, tant que monde social, et dans lequel se joue énormément de logiques individuelles, souvent très complexe et au service de stratégies qu'on ne comprend pas toujours. Et cette approche du monde de l'entreprise comme monde social m'a vraiment passionnée et beaucoup inspirée et j'utilise toujours cette analyse et ses analyses et tout ce qu'il a pu écrire autour de ces logiques, j'utilise dans mon quotidien.
Oui, puis voilà. Ton parcours s'est inscrit quand même dans un grand groupe, certes dans différentes filières, mais dans un grand groupe, donc tu nous en reparleras tout à l'heure, mais j'imagine que ça a pu t'aider. Si on revient à ta fonction actuelle, alors en quelques mots, Mirova, c'est une entreprise à mission labellisée Bicorp, société de gestion d'actifs, acteur engagé de référence sur la finance durable et à impact. Alors j'aimerais, Aude, si tu veux bien, prendre juste une petite minute pour que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est une entreprise à mission. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ?
Alors, l'entreprise à mission, c'est un concept, une qualité qui est née dans le cadre de la loi Pacte en 2019, et qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'inscrire dans leur statut une raison d'être et des objectifs, des engagements liés à cette raison d'être. Et la raison d'être qui a pour vocation effectivement d'inscrire l'entreprise dans quelque chose qui va au-delà de son seul impact financier ou de sa seule responsabilité fiduciaire. C'est-à-dire qu'une raison d'être, ça permet à l'entreprise d'inscrire dans ses statuts qu'elle a un rôle beaucoup plus large que le seul rôle économique, un rôle
sociétal,
et un impact social, sociétal, effectivement, et que toutes les actions qu'elle conduit ou les missions qu'elle ou les produits qu'elle distribue doivent effectivement respecter effectivement ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Et donc du coup voilà, donc Mirova a inscrit sa mission dans ses statuts fin 2020. Donc okay. Très peu de temps après la création de la loi, enfin la loi Pacte, voilà.
Et alors, quand on est DRH, qu'est-ce qui change fondamentalement lorsqu'on est dans une entreprise avec cette qualité d'entreprise à mission? Parce que des entreprises qui ont une raison d'être, qui ont un plan stratégique béton, il y en a plein. Donc est-ce qu'il y a vraiment une différence pour ta fonction?
Ouais, alors je pense que ça colore et ça teinte quand même le rôle de la fonction RH de façon assez structurante, parce que une mission c'est comme une boussole, un cap, et ça donne beaucoup de sens concret à ce que fait l'entreprise et a fortiori à ce que nous faisons en tant que direction des ressources humaines. Et ça nous permet en permanence de nous réancrer sur cette boussole. Voilà. C'est clair que ça nous permet de challenger davantage les décisions qui vont être prises sur les dimensions humaines et sociales dans l'entreprise, pour les raccorder et les réorienter en permanence par rapport à nos objectifs statutaires et par rapport à la mission de l'entreprise.
Mais ça implique une responsabilité de rester dans ce cadre-là. Est-ce que ça, finalement, ça génère des contraintes que tu n'aurais pas dans une autre entreprise, ou des opportunités d'avoir un impact, une oreille peut-être plus forte de la direction? Comment tu le vis? de l'intérieur ?
Alors, ouais, il y a deux niveaux de contrôle. Hein. À partir du moment où vous êtes une entreprise à mission, vous avez un comité de mission qui doit venir vérifier hein, tous les ans l'adéquation entre ben, vos objectifs statutaires et les moyens que vous mettez en œuvre pour les respecter. Et puis, tous les deux ans, vous avez une obligation d'un audit organisé par un audit tiers indépendant qui va effectivement se positionner sur votre modèle de mission et le valider ou non. Et donc, du coup, il y a du contrôle. Donc, oui. Ça nous oblige. Hein, mais je n'appellerais pas ça une contrainte. C'est une approche extrêmement vertueuse dans le sens où ces deux niveaux d'instance, de contrôle, nous permettent d'être challenger de façon très vertueuse sur nos objectifs statutaires et de nous reposer des questions en permanence sur la façon dont nous respectons nos engagements. Et donc, ce qui crée plutôt de fortes opportunités pour nous différencier aussi vis-à-vis de nos concurrents, en faveur de nos clients, etc. etc.
Finalement, ça t'aide, toi, DRH, ça t'aide ou ça te challenge, d'ailleurs, je sais pas, dans ce rôle d'aiguilleur, de toujours rappeler à ta direction le cadre dans lequel les décisions sont prises et l'orientation respectée ou pas que l'entreprise prend.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai clairement un rôle d'aiguilleur, un peu de gardien du temple, j'aime bien ce terme-là, pour rappeler... à tous les niveaux de l'entreprise que la mission que nous avons définie et la raison d'être que nous avons définie collectivement est celle-ci et que les décisions qui doivent être prises doivent être en cohérence et en alignement avec cette mission. Donc il y a clairement ce rôle de gardien du temple et de rappel du cap en permanence.
Donc en introduction, quand je parlais de cette couleur Chief Mission Officer, c'est exactement de ça dont on parle, qui est d'autant plus présent dans une entreprise à... cette émission. Si on voulait découvrir une ou deux initiatives RH que tu peux porter aujourd'hui, qui t'amènent à bousculer les lignes, justement, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ?
Alors, en fait, nous, on a dans notre mission, donc comme je disais, une raison d'être et des objectifs statutaires, et notre cinquième objectif statutaire qui est inscrit dans nos statuts, c'est de nous appliquer en interne ce que l'on promeut auprès de nos clients, nos parties prenantes, etc. Donc, on a un devoir d'alignement et de cohérence entre ce que nous poussons auprès de nos clients dans leur choix d'investissement, etc. D'accord. Donc, des critères, je pense par exemple à la diversité, à l'inclusion, et que ce que l'on promeut de cette façon-là soit effectivement visible et vécu en interne chez Mirova. Et donc moi, une de mes activités, une de mes missions, c'est de veiller à cette cohérence, cet alignement entre ce que l'on promeut et notre mission. Ce qui implique que je travaille sur un certain nombre de sujets en lien avec la RSE et l'engagement des collaborateurs pour effectivement faire en sorte que dans lequel nos équipes évoluent, soient cohérentes avec les produits et les investissements que l'on vend, en fait. Voilà.
Parce que finalement, sur ton périmètre, je parlais de la fonction DRH, RSE et culture au départ, qui est plus large finalement que la fonction circonscrite aux ressources humaines, ce qui fait que toutes les initiatives que tu portes sont systématiquement au carrefour d'enjeux RH, RSE et engagement collaborateur. C'est
exactement,
bien ça ?
Exactement. Okay. Donc alors pour regarder sur un focus un petit peu plus RH par exemple, on va essayer de faire en sorte que l'expérience collaborateur que vivent nos équipes soit une expérience homogène, cohérente, agréable, quelle que soit la localisation de nos bureaux. Enfin voilà, on a des équipes qui sont à la fois à Londres, on en a à Boston, on en a à Nairobi, à Singapour, à Paris, et que du coup cette expérience-là, elle soit cohérente, homogène d'un site à l'autre. On va aussi travailler beaucoup sur la dimension onboarding pour faire en sorte que les collaborateurs et les équipes puissent avoir une même expérience à l'arrivée dans l'entreprise. Donc on met en place une formation systématique sur la finance durable, la finance impact pour tous les nouveaux entrants, d'accord, qu'ils soient, avec l'objectif de créer cet acumen commun. Donc ils sont tous très sensibilisés déjà à ces sujets-là quand ils arrivent chez nous en général, mais là c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire la finance durable chez Mirova comme entreprise à mission. On travaille aussi beaucoup sur des pratiques au quotidien. Je pense par exemple à notre politique voyage. On va avoir une politique voyage avec des enjeux d'empreinte carbone sur laquelle nous sommes très très challengés.
Et d'où l'alignement. Hein,
voilà, avec effectivement où nos collaborateurs vont vraiment venir nous challenger sur des pratiques de transport lorsqu'on part en voyage, ouais, etc. Je pense aussi à des... C'est peut-être plus anecdotique, mais n'empêche que c'est très important quand on organise des événements, des séminaires internes, etc. On a une charte assez stricte sur ce qu'on propose aux équipes en termes de repas, qu'il n'y ait jamais de verre en plastique, de vaisselle en plastique, qu'il n'y ait jamais de thon dans les plats qui nous sont proposés. Donc il y a une cohérence comme ça, du plus macro aux dimensions les plus de détails. Mais c'est vrai que tout ça, moi, c'est un peu mon job de créer cette cohérence et faire en sorte que l'expérience collaborateur vécue par nos équipes soit cohérente par rapport à ce que l'on promeut, ce qui est visible de Miroba à l'extérieur.
Tu viens de parler des collaborateurs, de ceux qui entrent, comment vous les onboardez. Vous leur donnez un nom, je crois, à vos collaborateurs, non ?
Oui, alors on essaie de créer notre univers, ce qu'on appelle notre univers mirovien, donc les miroviens, voilà.
Ouais. Alors, quels sont vos enjeux justement pour les attirer, les fidéliser, les engager ? Quels sont les cailloux que tu as traité, toi, pour une boîte
comme Mirova? Sur la dimension attractivité, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'enjeu aujourd'hui parce que... du fait de ce qu'on vient d'expliquer, de notre positionnement, de notre ADN, on attire beaucoup chez Miroba, donc on a beaucoup de candidats. Et nous, ce qu'on cherche à voir et à identifier parmi nos candidats, c'est vraiment des personnes qui vont avoir cet ADN chevillé au corps, j'ai envie de dire. Et ensuite, mon enjeu et l'enjeu de mon équipe, c'est vraiment de faire en sorte que lorsqu'ils sont chez Miroba, leurs attentes ne soient pas déçues et de répondre effectivement à leurs exigences et leurs expectations, on va dire en anglais, par rapport à tous ces sujets-là. Donc moi, mon enjeu, il est plutôt là, de pouvoir leur offrir une expérience qui soit conforme en termes de RSE, respect de l'environnement, parité, équité homme-femme, inclusion. On a notamment un comité diversité-inclusion chez Miroba qui est représentatif de toutes nos équipes en France et à l'international, parce que nous sommes en tant qu'entreprise très challengée par nos propres collaborateurs sur ces sujets-là. Donc nous avons créé un comité qui traite de ces thèmes, qui a proposé toute une politique en fait sur les dimensions, donc parité homme-femme, inclusion des personnes en situation de handicap, tous les sujets d'orientation sexuelle, tous les sujets intergénérationnels aussi. Donc en fait, on a des différents piliers que l'on adresse. Mais c'est grâce à ce comité, grâce à nos collaborateurs, que l'on essaie de progresser aussi sur ces sujets-là et de veiller à notre cohérence interne.
Ce que j'entends en creux, c'est que finalement, votre promesse est assez claire. Vous vous engagez à la tenir en interne, de créer cette cohérence dont tu parles entre la promesse business et la promesse expérience collaborateur. Et finalement, ça vous amène à attirer plutôt les bons profils. Ils savent pourquoi ils rejoignent Mirova et ils vivent l'expérience mirovienne que vous leur proposez. Donc là, il y a vraiment un alignement assez intéressant.
Ouais. C'est l'ambition, effectivement.
Et c'est l'ambition, oui. J'aimerais maintenant passer à quelques questions pour un DRH décomplexé. Je sais que ça ne va pas te faire peur. Alors, le DRH, on va dire que c'est une personne comme tout le monde, avec ses parts d'ombre et de lumière. Et j'aimerais que tu nous expliques, en tout cas, que tu nous racontes qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre en tant que DRH, dans ton quotidien.
Alors, moi, ce qui m'anime dans mon quotidien, je pense que c'est... ça peut déjà être perçu dans ce que j'ai raconté jusqu'ici, mais ce qui m'anime vraiment, c'est le bien commun, le sens commun au sein de l'entreprise et l'équité. Donc, pour faire respecter ce cadre-là, parfois je suis obligée ou poussée à prendre des décisions ou à faire des choix qui peuvent paraître parfois un petit peu difficile pour les gens qui reçoivent des messages des fois ou de recadrage ou de décisions que nous avons prises qui ne sont pas toujours très positives pour les personnes qui le vivent, mais voilà. Donc et dans ce rôle là c'est vrai que des fois on peut me considérer comme quelqu'un d'un peu dur ou Aude, elle est quand même un peu méchante, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement à chaque fois peut être un peu blessant, et à la fois je pense que c'est clairement mon rôle en tant que DRH, on a un mandat aussi de direction générale, de faire en sorte que les décisions que je prends sont vraiment justes et équitables à partir du moment où je considère qu'elles sont au service du bien commun, de l'intérêt commun de l'entreprise. C'est vrai que je suis assez à l'aise à les prendre, même si des fois ça va chercher chez moi une posture qui est peut-être un petit peu plus dure ou plus difficile à recevoir.
Est-ce que ça t'invite à hésiter entre exemplarité et authenticité ?
Alors, choisir, pardon ?
Ouais, de choisir ou en tout cas de te poser la question si finalement il vaut mieux être exemplaire, authentique, parce que être dans le job, prendre des décisions qui relèvent de ta responsabilité, mais prendre le risque de effectivement être perçu comme méchante ou trop dure. Est-ce que ça vient de chercher sur cette question d'authenticité versus exemplarité, si quand bien même il y aurait une contradiction entre les deux?
Non, parce que comme je dis, quand je prends une décision, clairement, je suis alignée. Enfin, quand je passe à l'action, sur une décision, c'est que je suis alignée avec elle. Et donc du coup, je pense, je suis quelqu'un de plutôt très authentique et j'exerce mon métier de façon très authentique. Et même quand il y a des décisions difficiles à prendre, c'est toujours de façon très authentique et en général alignée. Après, l'exemplarité, oui, c'est aussi, je pense que ça doit être une colonne vertébrale et quelque chose qui est très important de garder en tête. C'est un challenge tous les jours. Mais oui, c'est aussi un objectif d'être exemplaire et parce que ça fait partie aussi d'une fonction de dirigeant que d'être exemplaire. Voilà.
Merci Aude. On arrive vers la fin de cette interview et j'ai envie de te faire un petit cadeau. On va t'inviter à te mettre dans la peau d'une princesse qui a une baguette magique et je te pose la question suivante. Si tu pouvais avec cette baguette supprimer un des mots MAUX de l'entreprise, ce serait lequel ?
Waouh, c'est une question difficile. Non, mais ce qui me vient comme ça, je dirais, je pense oui, l'individualisme. Au sens, la perte du sens commun. Voilà.
Une devise ?
Alors, une devise, moi, il y a une devise que j'aime bien, alors qui n'est pas très, très originale, mais en tout cas qui a beaucoup de sens pour moi, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est une devise que j'ai en tête dans mon quotidien de DRH et effectivement avec mon équipe et avec toutes les équipes de l'entreprise dans laquelle je travaille.
Une toute dernière question, ça va nous permettre de finir en musique. Si je te propose de choisir une musique pour partager ton optimisme, apporter ton soutien à l'ensemble des collaborateurs de Mirova, à l'ensemble des Miroviens, quelle musique tu choisis et ça nous permettra de clôturer?
Alors, la musique que j'ai choisie, c'est Jérusalem, qui est une musique, une chanson qui a été sud-africaine, en fait, qui a été écrite pendant le confinement et que j'aime beaucoup parce qu'elle donne la pêche. Et puis, voilà, vu le contexte qu'on est en train de vivre actuellement d'un point de vue actualité, voilà, j'avais envie. C'est en tout cas, quand tu m'as posé la question, Céline, c'est la chanson qui m'est venue en tête.
Parfait, ben écoute, on va terminer avec Jérusalem. Merci Aude d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Céline.
Jérusalem.